Vous êtes à l'écoute de l'émission Méditation biblique. Au micro, Jacques Marchal.
Le Seigneur même, par la suprême, le Seigneur même, il est amour. Je redirai toujours le Seigneur même, le Seigneur même, il est amour.
Chers auditeurs, bonjour.
À toi la gloire et la victoire, à toi la gloire, l'agneau de Dieu. Je redirai toujours le Seigneur même, le Seigneur même, il est amour.
Relâchement des mains que certains considéraient comme nécessaire par rapport au manque d'informations des trois dernières décades n'a nullement donné le résultat escompté. Un psychologue bien connu atteste dans un article de revue médicale qu'aucun de ses patients n'est victime de ce que l'on appelle communément le refoulement sexuel. Il s'agit pourtant du genre de personne qu'il suit depuis déjà un certain nombre d'années. Le problème sexuel, s'il existe, d'après ce même praticien expérimenté, se situe à un tout autre niveau, c'est-à-dire à celui d'une pratique sexuelle dénuée de tout sens amoureux. D'après les milieux médicaux, la liberté sexuelle pratiquée trop souvent à l'époque actuelle a suscité trois dilemmes. Le premier est que l'ouverture aux connaissances d'une certaine sexualité moderne n'a, à aucun point de vue, solutionné les problèmes sexuels de notre culture. Bien au contraire, l'anxiété et le sentiment de culpabilité s'en sont trouvés accrus. Le deuxième fait ressortir que la nouvelle emphase mise sur une certaine technicalité en matière d'actes sexuels se retourne contre ses participants. Ceci signifie que des êtres éclairés adoptent vis-à-vis de cet acte une attitude purement mécanique qui intensifie dans de larges mesures l'aliénation affective, le sentiment de solitude et de dépersonnalisation. Le troisième dilemme est représenté par le fait que la fameuse liberté sexuelle tant vantée a donné naissance à une nouvelle forme de puritanisme, c'est-à-dire une sorte de perte de respect pour le corps, la nette séparation entre émotion et raison, et l'utilisation de ce même corps comme s'il n'était qu'une simple machine à faire l'amour. Autrement dit, nous avons abandonné toute vue saine et biblique de la pleine nature de l'homme avec ce qu'elle comportait de liberté, pour ce qui finalement n'est qu'un esclavage sexuel. Cela rapproche l'homme de l'animal, renie la nature que Dieu lui avait accordée et transforme une puissance, une merveilleuse force en tyran minable et sans signification aucune. En poursuivant cet examen de la révolution sexuelle du monde occidental, il me paraît essentiel de raviver la mémoire quant à des vérités enseignées par la parole de Dieu et que nous avons peut-être oubliées. Il s'agit en réalité d'un langage direct, effectuant d'une manière assez étonnante que précise une véritable analyse de notre maladie moderne en ce qui concerne la sexualité. Premièrement, l'homme est une créature unique de Dieu. Les Écritures enseignent que Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Et Dieu créa l'homme à son image. Deuxièmement, à l'origine, la création de l'être humain comprenait la formation de deux rôles sexuels ou deux natures. C'est pourquoi le livre de la Genèse relate qu'il créa l'homme et la femme. Troisièmement, ces deux natures sexuelles sont la base même de leur raison d'être. Dieu entendait en effet que leur création est un rapport direct avec la procréation de l'espèce humaine, la domination sur le reste de l'ordre de la nature, le désir de compagnie fermement ancré dans chaque cœur humain. Quatrièmement, ces deux natures sexuelles sont toujours décrites dans la Bible comme faisant partie d'un tout et jamais comme entité pouvant pleinement se développer seule, c'est-à-dire en dehors de la présence de l'élément masculin ou féminin. C'est la raison pour laquelle les relations sexuelles ne peuvent se dérouler avec l'approbation de Dieu entre un homme et une femme que dans la confiance et l'amour que comportent les liens durables du mariage. L'origine et la nature exacte de l'homme sont nettement définies dans les deux premiers chapitres de la Bible où nous pouvons lire que l'homme dit « Voici cette fois celle qui est peau de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Cinquièmement, la sexualité humaine fait partie intégrante de la création divine, dont il est dit toujours en Genèse, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Cependant, la violation de la nature propre de la sexualité, la faisant aboutir à un acte impersonnel, dénué d'amour, isolé ou égoïste, sont toujours considérées dans l'Ancien Testament, aussi bien que dans le Nouveau Testament, comme une perversion. Le livre des Lévitiques en parle notamment en ces termes. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, et s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme seront punis de mort. Si un homme couche avec la femme de son père, et découvre ainsi la nudité de son père, cet homme et cette femme seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Par ailleurs, Jésus s'exprime ainsi. N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. L'apôtre Paul, quant à lui, dit également ceci. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et que le mari ne répudie point sa femme. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Sixièmement, bien que traitant l'expression de la sexualité chez l'homme avec réalisme et en lui accordant pleinement toute son importance, la Bible démontre avec non moins de franchise que cette sexualité n'englobe pas l'homme tout entier. Le Fils de Dieu offre au monde une vie équilibrée lorsqu'il nous rappelle qu'à la résurrection, les hommes ne prendront point de femme ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. La sexualité, bien qu'étant un don de Dieu à l'humanité, fait partie de ce côté temporel de l'homme qui n'est pas destiné à survivre lors du jugement et de la nouvelle ère du royaume céleste. De plus, l'apôtre Paul nous rappelle qu'il existe des époques et des circonstances alliées à des inclinations naturelles durant lesquelles hommes et femmes peuvent demeurer dans le célibat, tout en remplissant de grandes tâches et sans pour cela tomber dans l'immoralité sexuelle. Tel fut par exemple le cas durant les persécutions par les Romains. Il dit « Chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre ». Cette affirmation est immédiatement suivie d'une sorte de panagérique de l'état de célibataire destiné à ceux qui sont ainsi faits par nature et par tempérament. Jésus analyse bien la situation en ce qui nous concerne lorsqu'il nous exhorte à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Sous quel angle considérez-vous votre personne et votre vie? Êtes-vous torturé par des péchés réels ou imaginaires? Éprouvez-vous des difficultés à accepter votre nature physique, émotionnelle, intellectuelle et spirituelle telle que Dieu l'a créée? Nous serons en conflit avec nous-mêmes aussi longtemps que nous le serons avec Dieu. L'épître de Jacques nous dit ceci. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? L'amour que Dieu éprouve pour vous est aussi indéniable qu'immense. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Ceux qui suivent Jésus-Christ peuvent dire, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Le chrétien aime car Dieu l'a aimé le premier. Il est accepté par l'Éternel au travers de son Fils et sa nature a hérité de lui. C'est un sujet de reconnaissance sans fin. Il comprend et respecte la dignité et le but du corps merveilleux dont il est doté. Telle est la raison de la charge que le Créateur confie à chaque être, et tout spécialement à ceux qui se trouvent engagés dans la révolution sexuelle d'aujourd'hui. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement, et voici le second qui lui est semblable. Tu tu aimeras ton prochain comme toi-même. Montrez votre amour pour Dieu en respectant, en étudiant, en suivant sa parole, la Bible. Exprimez votre amour pour Christ en acceptant sa mort comme celle du Fils de Dieu, en vous repentant définitivement de tous vos péchés, en confessant votre foi en lui comme Sauveur et Seigneur, et en étant baptisé pour le pardon de tous vos péchés. Ceux qui répondent à un tel appel sont littéralement régénérés en devenant de nouveaux hommes, de nouvelles femmes. La liberté sexuelle n'est qu'un vaste mythe. Car elle vous rend prisonnier de vos sens et fait de vous une chose, un sexe, une fonction. Votre vraie nature est toute différente. Si vous voulez la voir, elle est spirituelle. Et cet état est moulé autour d'un corps dont la fonction sexuelle ne peut être, ne doit être basée que sur un amour partagé. Le don de soi-même à l'autre, pour ne former qu'une seule chose, est un million de fois plus qu'un accouplement. La révolution sexuelle est, heureusement pour l'humanité, en train de s'estomper tout doucement, car l'être humain a finalement trop de bon sens que pour l'accepter durant une longue période de temps. Ayez confiance au monde qui suivra et dont vous ferez partie. La crise de sexualité finira par disparaître et vous apparaîtrez dans une société expurgée, vraiment libre, débarrassée de ses errements. Sortirez-vous de cette nouvelle révolution la tête haute ou le cœur rempli d'amertume? Il est toujours temps lorsque l'on voit clair et toujours trop tard quand on se laisse uniquement diriger par son corps, par sa sensualité. Vous venez d'entendre une émission de méditation biblique au micro Jacques Marchal. Faites-moi part de vos idées, de vos suggestions sur ce que vous venez d'entendre. Je vous répondrai personnellement, je vous le promets. Également vous envoyer le texte intégral de cette causerie, gratuitement s'entend car nous n'avons absolument rien à vendre. Mais qui sommes-nous? Des chrétiens qui ne portent pas d'autre nom et ne sont rattachés ni à une organisation centrale, ni à une secte quelconque. Notre unique règle de foi et surtout de pratique est le Nouveau Testament. Notre unique chef, Jésus-Christ, seuls ses enseignements et ceux des apôtres font autorité dans nos vies. Nous parlons de ce que la Bible dit et demeurons silencieux à propos de ce qu'elle n'enseigne pas. Écrivez à Jacques Marchal, 6 rue Étienne Falconet, 3130 Balma. Je répète, Jacques Marchal, 6 rue Étienne Falconet, 3130 Balma. Au revoir, que le Seigneur vous garde et à lundi prochain, même heure.
Le Seigneur même, le Seigneur même, il est amour. Je vous dirai toujours le Seigneur même, le Seigneur.